Bien, j'étais très intéressé de participer ce matin. Bien souvent, quand on vient en orateur, on se dit comme ça dans une journée, on va venir pour son intervention. Ça aurait été une erreur parce que je trouve que j'ai beaucoup appris au travers de ce que j'ai entendu, des questions, des échanges, et je me réjouis aussi de voir un public beaucoup plus jeune que moi devant moi. Alors, courte présentation, je vais essayer de faire bref et succinct, mais déjà, je suis marié. Nous avons eu 3 enfants. Nous avons 5 petits-enfants, dont l'aîné a 30 ans et la plus jeune, 12 ans. Donc, vous voyez, c'est vaste. Nous avons évolué dans notre engagement avec mon épouse depuis maintenant un petit peu plus de 50 ans. Engagé dans la société, engagé dans l'Église et dans l'œuvre de Dieu. Notre ministère, et mon ministère particulièrement, a été d'être ce que j'appelle un laïc à plein temps. C'est-à-dire que j'ai servi autant dans l'entreprise que dans l'œuvre de Dieu. C'est vrai que j'ai été sollicité pour être vraiment à ce qu'on appelle à plein temps. Dieu nous a convaincus avec mon épouse que ce n'était pas ma vocation ni ma mission, que ma mission aurait été d'être témoin en tant que laïc, engagé dans l'entreprise et engagé dans l'Église. Mon parcours entrepreneurial a démarré dans les années 60, peu était né, peut-être même pas un seul. Puis, c'est poursuivi jusqu'en 2004. Donc, j'ai 42 ans d'entreprise, ça fait 13 ans que je suis à la retraite. Donc, ça vous donne un peu un aperçu de mon âge avancé. Dans l'entreprise, je suis ce que l'on appelle un autodidacte. La situation familiale a fait que, à l'âge où mes orientations commençaient à se dessiner, je voulais préparer les arts et métiers à l'époque, et il y avait un ou deux lycées parisiens qui le faisaient. J'étais dans cette section que mes parents ont divorcé et ont déstabilisé un peu mon adolescence. Ce qui fait que l'école que je briguais, j'en ai vu la porte, mais je suis passé à côté. C'est comme ça, on n'en fait pas l'histoire. J'ai donc choisi d'autres voies et je dois dire que ma scolarité s'est trouvée être quelque peu erratique ensuite. Mais mon désir d'avancer dans la vie a toujours été total et entier. J'ai donc commencé, je dirais, au bas de l'échelle, en tant que technicien dans l'industrie de la mécanique, et puis je suis devenu quelques temps après ingénieur maison, puis j'ai un moment trouvé que, ayant des patrons qui n'étaient peut-être pas à la hauteur, j'ai créé mes entreprises, j'en ai racheté d'autres. J'ai revendu, j'ai redressé, et puis j'ai continué comme ça dans l'industrie manufacturière, dans le traitement de surface à la base, puis dans l'industrie automobile, comme sous-traitant dans la robotique pour la dépose des pare-brise sur les véhicules automobiles. Et j'ai terminé ma carrière comme président du directoire d'une entreprise qui était à Aix-en-Provence pour aider pendant quelques mois, alors que j'étais à la retraite déjà. Donc c'est un parcours d'entrepreneur, de dirigeant pendant plus de 30 ans d'entreprise, mais aussi d'engager dans l'œuvre de Dieu en parallèle. Parce que malgré nos 3 enfants, nous avons commencé à la fondation d'église, fondation de Paris Nation avec Alain Chouaquier, puis ensuite de Saint-Maur, et ensuite de plusieurs autres églises en région parisienne. Puis engagé en même temps dans l'œuvre de jeunesse, nous avons avec Brian Tadford, fondé ici en région parisienne l'Ouville de France, une association de jeunesse qui a rayonné sur toute la France. Engagé dans l'Église, bien entendu, comme ancien, puisque je viens des assemblées de frères, donc comme laïc engagé et responsable. Engagé dans des grands événements, puisqu'en 1985, j'ai organisé et présidé, tout en continuant à travailler, bien entendu, ce que l'on a appelé la fête de la jeunesse dans le cadre de l'année internationale de la jeunesse de l'UNESCO, où nous avons réuni 4600 jeunes au Parc Floral de Paris. C'était le premier événement qui se faisait dans les milieux évangéliques. Puis après, l'année d'après, en 86, j'ai dirigé les finances de la campagne Billy Graham de Mission France à Bercy. Dans l'intervalle, ensuite, je suis devenu président de l'Institut public de Nogent, où j'ai exercé pendant 24 ans, ce qui était contraire à mes principes, mais les choses étaient ainsi. J'ai ensuite présidé l'Alliance évangélique française pendant 9 ans, puis j'ai été au CNEF, au membre du bureau, et puis maintenant je suis président du CEL, puisque je suis en retraite et que je n'ai plus rien à faire. Ce qui prouve qu'on peut faire les deux en même temps, mais ce n'est pas simple. Fragile et performant. Vivre la grâce de Dieu en entreprise. Je dirais que le thème est vaste et à géométrie variable. Il dépend en effet de la situation de chacun. Salarié, indépendant, employé ou patron, secteur privé ou fonction publique, ce sont des cas différents. Ça dépend aussi de son arrière-plan personnel, de la personnalité et du tempérament de chacun d'entre nous, ainsi que de sa compréhension des Écritures. Mon propos n'est pas celui d'un théologien, mon propos est celui d'un responsable engagé dans la société, dans le monde, de l'entreprise et dans l'Église. C'est donc à travers une expérience de vie, accompagnée d'une étude et d'une méditation des Saintes Écritures, que j'ai grandi et que je vais vous partager ce qui m'apparaît important de considérer. Un parcours fait de succès et d'échecs, de joie et de souffrance, de satisfaction personnelle et de frustration. Même s'il existe des hommes brillants à haut potentiel, et j'en connais, j'en croise, aux capacités de travail hors normes, je ne crois ni aux hommes orchestres, ni aux surhommes. Pour ma part, j'ai dû apprendre à affronter des situations auxquelles je n'étais pas préparé, à gérer les imprévus et le déséquilibre, à accepter mes limites. J'ai compris qu'entre l'idéal et le possible, il pouvait exister une marge me conduisant à refuser une fausse culpabilité sans pour autant m'entraîner vers une mise en retrait injustifiée. Sans que la loi des Mèdes et des Perses, qui rendait immuable tout décret promulgué par le roi, ne doit jamais prendre le pas sur le plan de Dieu et le plan que Dieu a pour ma vie, et ce, tant dans l'Église que dans l'entreprise. Même si je ne comprends pas toujours la volonté de Dieu, je demeure assuré de sa souveraineté, quelles que soient les circonstances. Vivre la grâce de Dieu ne se limite pas à l'activité ecclésiale, elle devrait pouvoir s'exprimer en tout temps et en toutes circonstances. La grâce de Dieu n'est ni conjoncturelle, ni compartimentale, ni compartimentable. Nos choix et nos décisions peuvent ne pas être compris, mais nous veillerons à ce que la bienveillance permette de donner en permanence une chance à la relation. Ces préalables étant posés, je crois qu'il est bon pour pouvoir y revenir, de nous souvenir de certaines paroles bibliques que nous pouvons avoir reçues dans notre parcours et qui constituent un fondement soit à notre appel, soit à notre engagement, fonctionnant comme des marqueurs dans notre parcours. Personnellement, et pour ma part, j'ai 3 textes qui forment le socle de mon expérience. Le premier, je l'ai reçu pour moi-même, je n'étais pas chrétien. Celle qui allait devenir ma femme, déjà avancée dans la foi, luthérienne, alors que j'étais en Algérie pour les événements qui s'y tenaient, m'a envoyé une Bible pour mon anniversaire. C'est pas ce que j'attendais. Mais le premier texte que j'ai lu a été le texte qui me parcourt encore, qui me soutient encore, et qui était en Josué, et qui disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je n'étais pas chrétien. J'avais bien sûr passé quelques années à discuter de la foi avec un certain monsieur Alfred Kuhn, que je pensais pouvoir déstabiliser. On est présomptueux quand on est jeune. Mais Dieu est plus fort. Le second texte, c'était notre verset de mariage. Je n'étais toujours pas chrétien. Je sais toutes les questions que ça peut poser. Mais le pasteur luthérien, qui a accepté, quelle que soit notre situation, de donner la bénédiction de mariage, nous a laissé un verset qui nous a poursuivis et qui nous poursuit encore et qui a été une expérience totale de vie. Un verset prophétique. Romains 12, verset 12, pour un verset de mariage. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et le troisième verset, qui constitue ce socle, il m'a été donné dans l'exercice de mes responsabilités professionnelles. C'est Michée 6, le verset 8. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La grâce de Dieu pour le chrétien doit être considérée comme un bien précieux dont nous avons déjà la pleine possession et la pleine jouissance. Comme le disait Spurgeon, nous possédons le précieux sang de Christ qui nous donne la tranquillité de la conscience. L'amour de Dieu qui reste invariable et inaltérable. La prière qui nous donne accès au Seigneur en tout temps. La providence de Dieu pour veiller sur nous constamment. Ses anges pour nous servir. Le Saint-Esprit pour nous sanctifier. Ce que Paul traduit par cette expression en 1 Corinthiens 3, 23, « Tout est à vous », dira-t-il aux Corinthiens. Alors je me propose avec vous d'examiner en première partie en quoi la grâce de Dieu change-t-elle ma vie. Dans cette première partie, je voudrais poser un socle qui, loin d'être exhaustif, permettra de nous donner quelques repères. La seconde partie, parce que la grâce de Dieu n'est pas un trésor enfoui, nous réfléchirons comment concrètement elle peut s'exprimer dans notre manière d'appréhender les situations et les circonstances au travers des actes que nous sommes amenés à poser et aux valeurs qui nous animent, notamment quand ils doivent s'exprimer dans le milieu professionnel. Enfin, je conclurai par ce constat fait par l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 12, 10. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je terminerai par une illustration. En quoi la grâce de Dieu peut-elle changer ma vie? Alors, je n'ai pas fait de slide, contrairement à mes habitudes, mais quand c'est une conférence comme ça, j'ai trop de mauvais souvenirs de technique, où on passe un quart d'heure à régler le problème et on oublie l'essentiel. Mais j'espère que vous aurez des facilités à prendre des notes. De toute façon, c'est enregistré. Ça, j'aurais peut-être pas dû vous le dire, vous n'allez peut-être pas prendre de notes. Rappelez-vous qu'on retient bien ce qu'on note, bien souvent. Précisons que le plan de Dieu pour nos vies n'est pas un saucissonnage de diverses facettes de notre existence. Il forme un tout dans lequel s'inscrit notre parcours, contribuant à notre maturité. Rien n'est jamais figé. La vie est un mouvement, et à ce titre, elle nous réserve son lot d'inattendus qui peuvent nous déconcerter, voire nous déstabiliser. Citoyens des cieux et de la terre, et ça a été largement évoqué ce matin, nous n'éviterons pas les interrogations. La Bible ne nous dit pas tout. Ces silences sont aussi autant d'appels à exercer notre discernement, à formuler nos choix, à prendre nos responsabilités. La grâce de Dieu, c'est déjà une humanité nouvelle. En effet, la grâce de Dieu trouve sa première manifestation dans une humanité nouvelle. Notre statut de pécheur, juifs et païens confondus, nous condamnait à la mort et à la perdition éternelle. De plus, notre statut de païen nous rendait étrangers à la vie et aux promesses de Dieu, nous privant de toute espérance, c'est ce que dira l'apôtre Paul. Ce que John Stott appellera la double aliénation. Aliénation vis-à-vis de Dieu et désdain à l'égard des autres. Quand Paul adresse sa lettre aux Éphésiens, il décrit la position très défavorable dans laquelle se trouvent les non-juifs. Ils étaient athées. Pas dû au fait qu'ils ne croyaient en rien, bien au contraire, il y avait un tas d'idoles. Il y avait pléthore de divinités, mais parce qu'ils n'avaient pas la connaissance du vrai Dieu. C'est à ce titre qu'ils les considèrent comme athées. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, associé à une démarche de foi qui, désormais, permet à tous d'accéder au salut et aux promesses de la vie éternelle. Jésus, artisan de paix, a tout accompli. Il nous ouvre la voie qui conduira à l'établissement d'une société nouvelle en nous offrant une nouvelle humanité. En écrivant aux Corinthiens, Paul peut ainsi affirmer « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. » Notre corps, devenant le temple de Dieu, nous devenons membres de la famille de Dieu et sommes invités à participer à la construction du royaume. Ce changement de grande ampleur et les nouveaux privilèges qui nous sont accordés en Christ nous invitent à vivre et à partager pleinement la vie de réconciliation qui nous a été offerte. Artisans de paix, nous devons irriguer l'environnement qui est le nôtre. Il ne s'agit pas d'adapter notre discours, mais de mettre en cohérence nos actes et nos paroles et de prendre conscience que le système de mérite sur lequel se construit notre société est en rupture avec le principe de grâce sur lequel se fonde notre relation. Deuxième aspect de la grâce, un regard transformé. Cette double appartenance va provoquer des tensions, comme cela a été bien encore souligné ce matin, et le regard que nous portons sur les situations que nous devons affronter ne doit pas s'affranchir de ce double aspect. Il nous faudra en permanence éviter les amalgames, ne pas tracer des frontières qui n'ont pas lieu d'être, ne pas demeurer dans des schémas obsolètes et ne pas prendre pour argent comptant les discours dépassés. Parce qu'étrangers et voyageurs sur cette terre, nous sommes amenés à nous souvenir que le parcours que nous sommes appelés à y faire n'est que temporaire et transitoire. Que la grâce de Dieu dont nous sommes au bénéfice nous conduit à nous rappeler qu'en dehors de notre filiation terrestre, nous sommes devenus enfants de Dieu et que notre pensée et notre regard puisent leur source ailleurs que dans le monde des hommes. Si le chrétien a les pieds sur terre, il a visiblement le cœur au ciel. Cependant, la question n'est pas si simple. Comme le relève le sociologue Frédéric de Coninck, il souligne l'opposition qui peut s'exercer entre deux types d'éthique chrétienne. L'une qui met en avant l'importance d'une présence au monde, l'autre qui insiste sur la nécessaire rupture avec ce monde. Chacun d'entre nous se trouve donc invité à réfléchir sur sa place au sein de cette société et à rechercher le sens de sa présence au monde afin de répondre aux tensions que nous vivons et aux ambiguïtés qui peuvent nous apparaître. La grâce de Dieu ne nous amène pas à relativiser les choses et les situations, mais à les évaluer et à les appréhender dans une autre perspective. Troisième aspect de cette grâce de Dieu, des relations restaurées. En restaurant ma relation avec Dieu, sa grâce me conduit à mettre en œuvre le principe de faire aux autres ce que nous aimerions que l'on fasse pour nous. C'est en soi une démarche de bon sens, bien qu'elle ne soit pas obligatoirement spontanée. Là où les choses se compliquent, c'est quand Paul nous invite, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, et je lis dans la version Parole vivante d'Alfred Kuhn, « N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. » Que chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Il s'agit là des relations, les uns avec les autres, dans l'Église, comme frères et sœurs, mais pas seulement. Il parle du prochain. Les principes énoncés par Paul pourraient-ils être différents dans nos comportements, dans l'Église et dans la société? Au regard de la société, de telles attitudes ne peuvent ni être comprises, ni recueillir leur assentiment. C'est prendre le risque de passer pour un faible, pour un niais, sans envergure, sans ambition. L'homme nouveau que nous sommes devenus a été débarrassé de ses oripeaux, de cette illusoire apparence de grandeur pour revêtir Christ. Ainsi dépouillés de nos anciennes habitudes, nous sommes invités à arborer une autre manière de vivre, conséquence de cette humanité nouvelle. Cette vie nouvelle en Christ, Paul en donnera divers aspects dans sa lettre aux Colossiens, toujours au chapitre 3, pour lequel il énonce trois principes. Attachez-vous aux choses d'en haut, faites mourir ce qui est terrestre, renoncer aux mauvaises habitudes. Nous noterons ici que l'apôtre commence par inviter ses lecteurs à rechercher les choses d'en haut avant d'abandonner ce qui est terrestre. Il s'agit donc d'une vie et pas d'une morale. Revêtir et non pas cultiver. Dans la suite de ce chapitre, l'apôtre soulignera cinq qualités essentielles à cela. La bonté, l'humilité, la douceur, la patience et le pardon. Rappelant que ce qui les lie et leur donne leur force et leur pertinence, c'est l'amour. Puisqu'il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amour pour Dieu, amour pour le prochain, fondement de notre action. Après avoir posé ces trois bases, concrètement, c'est la deuxième partie, comment le traduire? Si la grâce de Dieu doit irradier tous les compartiments de notre vie, elle m'invite à l'exprimer au travers de mes valeurs et à agir à l'image de celui que nous honorons, que nous en témoignions oralement ou pas. Dites-vous bien que si vous êtes chrétien, vous n'avez pas besoin de le dire dans l'entreprise. On va vite le savoir et vite le remarquer, parce qu'il y aura quelque chose de différent par rapport aux autres. Je pourrais vous raconter de multiples anecdotes, mais sachez et qu'aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux qui, de mon temps, n'avaient pas ce privilège d'exister, mais qui quand même permettaient, et la dernière entreprise que j'ai présidée, j'ai eu l'étonnement, alors on était au début des réseaux sociaux, c'était 2003, hein, de voir l'un des cadres sup arriver dans mon bureau et me tendre une revue en disant « Est-ce que vous êtes ce Claude Grandjean qui a écrit ce qu'il a écrit là ?» Il s'agissait de la revue « Promesse ou certitude » à l'époque, je ne sais plus comment elle s'appelait, et qui portait en titre, c'était un interview qui m'avait été fait, « Un chef d'entreprise au pied du Christ ». Gentil accueil. Alors je lui dis, je suis celui-là. Ce qui a été dit et écrit, je ne le renie pas. Mais sans doute, vous trouverez parfois qu'il y a des décalages en ce que est écrit et parfois ce que je fais. Je vous autorise à me le dire. Et on en discutera. Vous voyez ? La grâce de Dieu se manifeste concrètement pour autant que nous y soyons attentifs et que nous désirions la saisir quand elle nous y invite. Et je voudrais prendre trois moments où nous devons apprendre à saisir la grâce de Dieu dans l'entreprise. Le premier moment, c'est se garder et résister aux tentations pour rester libre. C'est basique. Mais c'est fondamental. Et c'est l'une des requêtes du Notre Père. Alors si la tradition a du mauvais, moi ayant été élevé en milieu catholique, j'ai des frères, le Notre Père, et le Je vous salue Marie, mais le Notre Père, nous y avions droit à tout début de cours, même en mathématiques. Je me suis toujours demandé comment on pouvait prier le Notre Père en mathématiques, mais ça fait rien. C'était important, car tous les jours nous disions les mêmes choses. C'est vrai, c'est de la redite, comme nous dirions dans les milieux évangéliques, de la prière vaine. Mais s'il fallait chaque jour appliquer une seule de ces phrases du Notre Père pour le mettre en pratique, voilà, c'est tout un programme de vie, je n'ai pas réussi à appliquer tout le Notre Père après 50 ans. J'ai encore des failles. Dans l'entreprise, comme dans les autres sphères de la société, Les sollicitations sont nombreuses et permanentes, mais toutes n'ont pas le même caractère. Se garder, c'est se mettre en position d'alerte. Ce n'est pas constamment vivre dans un climat de suspicion, en voyant le mal dans tout et partout. C'est veiller à demeurer maître de soi. C'est être capable de discerner les intentions. C'est être attentif aux propos que je peux tenir. On a parlé de la machine à café ce matin. Ça n'a pas tardé à remonter, hein, visiblement. C'est vrai, c'est se garder. C'est être vigilant dans mes actes et dans mes attitudes afin de ne pas laisser s'installer l'ambiguïté. Il ne s'agit pas d'être un rabat-joie ou timoré. Il faut être vrai en se sachant faillible. Cette nécessaire prise de conscience se révélera utile quand viendra l'inévitable confrontation avec la tentation. Là, le leitmotiv sera résister. À aucun moment, les Écritures nous laissent à penser que nous pourrions y échapper à cette réalité de la tentation. Jésus lui-même y fut soumis. Pouvons-nous nous imaginer que nous serions en capacité de nous en sortir seuls? C'est possible, mais ça peut être présomptueux. Jésus lui-même a eu recours aux Écritures pour combattre celui qui voulait le faire chuter. Mais résister, c'est quoi? Résister, c'est ne pas céder. Résister, c'est s'opposer à. Résister, c'est lutter contre. Résister, c'est tenir ferme et supporter sans faiblir. Paul, quand il aborde ce sujet dans sa première lettre aux Corinthiens, en parlant des révoltes du peuple d'Israël, termine ce passage en invitant ses lecteurs à se méfier d'eux-mêmes. Si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Et en leur rappelant, les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Trois choses sont à souligner ici. Les tentations sont communes. Les tentations sont supportables. Les tentations ne sont pas sans issue. C'est ce que dit Paul. Par voie de conséquence, nous sommes responsables du dénouement. Et c'est important, car l'enjeu, c'est notre liberté. C'est-à-dire de ne pas nous aliéner ou ne pas nous mettre sous un joug qui finirait par nous accabler et qui viserait à nous détruire. Toujours Paul, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté, dira-t-il aux Galates. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Alors qu'est-ce à dire? Est-ce que je ne dois faire aucun compromis? Avec le péché, certainement. Dans la revue Okma numéro 86, sous le thème général « Les enjeux de l'éthique », nous avons un compte-rendu des conférences qui ont été données lors d'un séminaire qui s'est déroulé à l'Institut biblique et missionnaire d'Emmaüs en mai 2004. Dans l'exposé fait par Jacques Buchold sur le thème « Jésus, la venue du royaume et la question sociale », l'auteur aborde ce qu'il appelle trois éthiques bibliques, à savoir l'éthique de la sainteté, l'éthique du compromis, l'éthique des limites. C'est sur la seconde que je m'arrêterai en quelques mots. L'éthique du compromis. Il ne faut pas confondre compromis et compromission. Le compromis est une décision, un acte arbitré qui prend en compte une situation et un niveau de connaissance ou d'information qui me permet de faire des choix raisonnables, mais sans aucun doute imparfaits. La compromission relève de l'accommodement coupable fait par lâcheté ou par intérêt. Elle peut, dans certains cas, devenir répréhensible par rapport à la loi. Et je vais vous rappeler une maxime qui est de Vincent Norman Peale dans L'éthique et le management. Il n'existe pas de bonne manière de faire une chose mauvaise. Nous demeurons des êtres faillibles, Dieu le sait, et nos contemporains qui ne partagent pas notre foi le voient. Ce qu'ils attendent, ce n'est pas que nous soyons parfaits, mais cohérents. Cohérents avec la foi que nous professons et avec le sens que Dieu donne à notre vie. On a beaucoup parlé du manque de sens, et je crois que c'est important. Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 42, nous exhorte à être conséquents. Il dit « Nous rejetons les méthodes secrètes, les voies cachées et tout ce qui se trame dans l'ombre. Nous n'avons rien à dissimuler, rien dont nous ne devions rougir. Nous ne nourrissons ni arrière-pensée ni calculs intéressés. Nous ne recourons pas à l'intrigue ou à la ruse, nous les dénonçons. » Au contraire, sans ménagement. Nous n'altérons pas la parole de Dieu et nous n'en tordons pas le sens. Tordre le sens de la parole de Dieu, c'est déjà de la compromission, pas du compromis. Deuxième aspect concret, après se garder et résister à la tentation, affronter ses échecs et accueillir ses réussites. Échecs ou réussites, dans ces deux circonstances, la grâce de Dieu est plus que jamais nécessaire pour poursuivre notre parcours. L'acteur Roland Giraud, cité dans un de mes livres, notamment le dernier, Le succès, premier pas vers la réussite, écrit, ou dit plus exactement, « Le succès est aussi difficile à supporter que l'échec. » Il faut apprendre à gérer l'un comme l'autre. Il ne faut pas confondre erreur et échec. Une erreur se corrige, un échec doit pouvoir se surmonter. L'échec est pour la plupart d'entre nous mal vécu, car il nous déconsidère aux yeux des autres et peut nous conduire à une perte de l'estime de